Gloire au Seigneur. Quel beau message nous avons entendu au travers de ce dernier chant. Déclarer que Dieu règne et qu'il se tient auprès de tous ceux qui le craignent. De tout mon cœur, je crois que tous ceux qui sont là, et peut-être bien sûr d'autres qui ne sont pas avec nous, eh bien, peuvent dire en toute sincérité qu'ils craignent Dieu, qu'ils l'aiment, et qui le servent avec un cœur joyeux. Donc, ce message est également pour eux. Dieu règne et nous n'avons rien à craindre. Juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que toutes les attaques réitérées de l'ennemi de notre âme ne doivent pas nous amener à craindre quoi que ce soit. Dieu permet parfois cela, pour que nous arrivions jusqu'à nos limites personnelles. Quand nous comptons trop sur notre propre volonté, sur nos forces naturelles pour triompher, eh bien, Dieu est obligé de nous amener jusqu'à cette extrémité où nous réalisons que nous ne pouvons plus rien faire. Mais quand nous ne pouvons plus rien faire, tout est à faire du côté de Dieu. Et il ne nous abandonne jamais. C'est pourquoi nous pouvons compter sur lui. Et à un moment donné, le Seigneur permet que dans notre extrême faiblesse, comme nous l'avons chanté, nous crions à Dieu dans notre détresse. Mais vous connaissez ce que la Bible déclare. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Alors nous ne sommes pas au bout, justement, de voir tout ce que Dieu est capable de faire. Il est un grand Dieu, puissant, il est vivant, et nous allons nous attendre à lui pour que chaque jour, étant renouvelé par sa grâce, nous puissions voir ses œuvres merveilleuses s'accomplir, parce qu'il est toujours vivant. Vous le croyez, n'est-ce pas? Alors nous nous attendons à lui. Et d'ailleurs, sur ce thème-là, que nous allons ensemble méditer la parole de Dieu à partir d'un chapitre qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre premier que je vous invite à lire avec moi. Actes des Apôtres, chapitre premier. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et ce qu'il a écrit, c'est justement dans l'évangile de Luc. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai enseigné, annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit « Hommes frères, il fallait que s'accomplît ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et que notre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Prions encore une fois le Seigneur. Seigneur, chaque jour, nous voulons te dire merci pour la parole que tu nous as laissée, et parce qu'elle éclaire notre chemin. C'est une lampe qui brille devant nous et nous te sommes reconnaissants parce qu'au travers d'elle, tu nous révèles ta volonté. Oh, je te prie, Seigneur, de bénir ces instants de méditation, que mes frères et sœurs et moi-même, sous le contrôle de ton esprit, nous puissions saisir ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Seigneur, tu es vivant, tu es réel. Nous comptons sur toi, nous voulons nous appuyer sur ton bras fort et je te prie, Seigneur, que notre intelligence puisse être ouverte et réceptive pour comprendre tout ce que tu désires nous révéler. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Mon message ce matin va simplement se porter sur l'expérience du renouvellement spirituel. Le texte que nous avons lu ce matin met en relief la manière dont le Seigneur Jésus a renouvelé la vision, la force, le courage de ses disciples. Et il y a des moments où dans notre vie, nous avons besoin que le Seigneur, par une action puissante de son esprit, appliquant sa parole à nos cœurs, nous puissions, nous aussi, être renouvelés dans notre fort intérieur. Lorsque je lis avec attention la Bible, je m'aperçois de l'importance suprême qu'elle donne à la vigilance et au dynamisme dans le combat spirituel. La tendance de l'homme naturel, nous en avons fait tous l'expérience, eh bien c'est de s'attiédir et puis de manquer de force à un moment donné et puis finir par s'endormir. Et quand un soldat arrive à cette extrémité-là, alors que va faire le général ou le commandant? Il va tout simplement lui demander de rejoindre les derniers rangs. Parce que même lorsqu'une église arrive à être défaillante, à tomber dans la léthargie, personne ne pourra dire combien les conséquences peuvent être désastreuses. C'est la raison pour laquelle Jésus, souvent à la fin de son ministère ici-bas sur la terre, a insisté, et dans ses paroles, nous découvrons souvent « veiller et prier ». Lorsque, par exemple, Jésus s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémané, menant un combat exceptionnel, que je ne vais pas décrire encore une fois ce matin, mais que nous connaissons tous pour l'avoir lu dans la parole du Seigneur, nous nous apercevons qu'à un moment donné, alors que Jésus s'attendait à ce que le groupe de ses disciples, en tous les cas, les trois qu'il avait amenés toujours plus près de lui, puissent résister et tenir ferme dans la prière, ils se sont endormis et s'adressant à Pierre, Jésus lui a simplement dit ceci, « Vous n'avez même pas pu tenir une heure dans la prière avec moi. » Mais cet homme à qui ce reproche a été fait, nous le retrouvons juste quelques jours après, le jour de la Pentecôte, rempli d'un enthousiasme incroyable, renouvelé par une action puissante du Saint-Esprit et dans une force qui ne venait pas de lui-même, mais qui venait de l'intérieur, parce que le Seigneur avait suscité cela en lui. Le jour de la Pentecôte, on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est transformé complètement. Eh bien, je vous dirais, mes frères et sœurs, qu'il y a des moments où, dans l'expérience de notre vie, nous avons besoin de connaître un tel renouvellement. Et la parole de Dieu va nous montrer ce matin combien effectivement c'est la volonté de Dieu de venir à notre aide dans les moments que nous pouvons connaître les uns et les autres, dans les difficultés, dans les épreuves, dans les doutes, dans un abattement qui peut finir par nous gagner. Il est capable de se manifester, de se révéler, comme il l'a fait pour ses disciples qui étaient abattus, nous allons le voir dans un instant, accablés, découragés, mais quand il s'est révélé à eux, eh bien, quelque chose s'est passé. C'est comme un miracle à l'intérieur d'eux-mêmes, et c'est ce que je souhaite que le Seigneur fasse pour chacun d'entre nous, peut-être même ce matin. Est-ce que vous croyez que cela est possible? Voyez-vous, même alors dans ce cadre de réunion tout à fait ordinaire, simple, mais là, si nos cœurs sont bien disposés, rien ne peut empêcher Dieu de faire ce miracle afin que, comme je l'ai entendu, au travers d'une prière, nous puissions sortir, non pas comme nous sommes entrés, mais avec une force nouvelle communiquée par le Seigneur. Non pas par un homme, ni par le discours d'un homme, parce que je suis pleinement conscient qu'à mon niveau, je ne peux rien faire pour qui que ce soit, mais celui que j'annonce, celui qui est réel pour chacun d'entre nous, lui a le pouvoir de faire bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou nous pouvons penser. Mes frères et sœurs, une église locale devrait comporter trois caractéristiques. La première, c'est d'être fondée sur les vérités de l'Écriture. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle doit pouvoir évangéliser d'une manière active. Et la troisième caractéristique, c'est d'être spirituellement vivante. Le conformisme sans vie rebute, mais l'Église vivante attire. Et je prie le Seigneur pour que l'Église d'Aubagne, eh bien, puisse avoir de telles caractéristiques. Et ça ne sera pas le résultat de nos efforts. Encore une fois, je le répète, ce sera l'action du Saint-Esprit à laquelle nous devons nous abandonner, parce que Dieu peut, au travers de cela, eh bien, nous régénérer. Je lis, par exemple, dans l'épître de Paul à Tite, le verset suivant. « Il nous a sauvés, dit l'apôtre, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Tite, chapitre 3, et le verset 5. « Lors de notre conversion, le Saint-Esprit a régénéré notre être tout entier. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et ceci a été fait une fois pour toutes. On n'a plus à y revenir. Mais il nous a aussi renouvelés, dit le texte. Et tandis que l'action de régénération est faite une fois pour toutes, le renouvellement est possible tous les jours de notre vie. Dans un autre texte, Paul s'adresse aux Corinthiens en ces termes. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Et un peu plus loin, là, s'adressant à une autre église, qui est l'église d'Éphèse, il dira « Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence ». Cette exhortation est adressée à chaque chrétien. Et Paul ajoute encore à une autre église, je fais exprès de citer les différentes églises pour que nous comprenions bien que c'est une pensée pour tous et que ça nous concerne également nous, s'adressant aux Colossiens au chapitre 3 et au verset 10, il dit « L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de son Créateur. » Et dans le texte que nous avons lu, j'en viens là maintenant à la lecture que nous avons faite, eh bien, nous découvrons 5 étapes de renouvellement, 5 étapes de renouvellement spirituel, et c'est ce renouvellement-là, dans ces différentes étapes, est très important. Première étape, il veut nous renouveler les uns et les autres dans la confiance en un Seigneur vivant. C'est le premier point. Le verset 3 du chapitre que nous avons lu dit « qu'il leur apparut vivant ». Les disciples auxquels Jésus est apparu vivant, dans quel état se trouvaient-ils ? Parfois nous pensons que le renouvellement spirituel nécessite que nous soyons dans une disposition d'esprit, un état de cœur particulier, dans une période où nous sommes en pleine euphorie spirituelle, et là nous pensons que Dieu peut se révéler d'une manière extraordinaire. Mais nous nous rendons compte ici, dans le texte que nous avons lu, que les disciples étaient dans un piteux état. Ils n'étaient pas dans une période euphorique. Ils n'étaient pas dans un enthousiasme vraiment emballant. Mais je vais vous donner quelques-unes des caractéristiques de ces disciples au moment où Jésus s'est fait connaître à eux, ou plutôt s'est révélé à eux comme étant vivant. Premier point, il me semble qu'ils étaient extrêmement déçus. Je prends à témoin l'expérience faite par ces 2 pèlerins qui se trouvent sur le chemin d'Emmaüs. Vous connaissez tous ce passage. Ils s'entretenaient ensemble, ils parlaient, et la Bible dit qu'ils étaient tout tristes en s'entretenant des événements qui s'étaient déroulés les jours précédents. Et tandis qu'ils faisaient route comme cela et qu'ils étaient tout tristes, Jésus s'est approché d'eux sans même se faire connaître, sans même se révéler, et il leur a posé une question. De quoi discutiez-vous en chemin pour être si tristes? Et ils ont eu une réponse surprenante. Ils ont dit, mais comment tu viens, toi, de Jérusalem et tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas? Tu ne sais pas que celui que nous croyons être le Messie, celui en qui nous avions placé notre espérance, eh bien, ils l'ont crucifié. Nous pensions que c'était lui qui relèverait le peuple d'Israël. Mais maintenant, eh bien, on le sent bien, même s'ils ne l'expriment pas, ils sont dans une grande déception. Et c'est à eux, ces hommes déçus, que le Seigneur se révèle comme étant vivant. Vous savez, mes frères et sœurs, une chose, c'est de croire, oui, Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est vivant, nous le savons. Mais une autre chose, c'est d'en faire une expérience personnelle dans les moments les plus difficiles, quand nous sommes attaqués au plus profond de nous-mêmes, déçus, parfois même amers, et que nous entendons sa voix nous dire, mais pourquoi en es-tu là? Qu'est-ce qui peut te rendre amer, déçu? Est-ce que mes promesses ne sont pas toujours les mêmes? Jésus n'avait-il pas dit à ses disciples qui maintenant étaient dans une grande déception qu'il ressusciterait d'entre les morts? Pourquoi l'avait-il mis en oubli? Pourquoi nous arrive-t-il d'oublier que le Seigneur est toujours le même? Pourquoi nous arrive-t-il d'oublier les promesses qu'il nous a faites dans sa parole et d'être profondément déçus parce que certains événements, certaines circonstances nous ont amenés dans un tel état d'esprit? Mes frères et sœurs, il est vivant. Et puisqu'il est vivant, nous n'avons rien à craindre. Les frères qui m'ont précédé sur cette estrade tout à l'heure, aussi bien le frère qui nous a dirigé dans les chants que le frère qui a fait la lecture pour la Sainte Cène, ont mis l'accent sur ce texte formidable. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est pas suffisant pour être renouvelé dans nos forces, pour être renouvelé dans notre courage, pour laisser la déception de côté et nous appuyant sur son bras, croire que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ils doutaient également. Non seulement ils étaient déçus, mais ils doutaient. Ils doutaient de quoi? Vous le savez, l'Évangile nous dit que Jésus étant ressuscité, s'est fait connaître d'abord et est apparu d'abord à Marie et il a confié un message à cette femme pour qu'elle aille dire à ses disciples que finalement ce qu'il avait dit s'était réalisé. Mais vous savez quel est le témoignage rendu par l'évangéliste Luc au chapitre 24? Eh bien, ils ont entendu les paroles qui ont été prononcées par cette femme. Mais tous les disciples crurent que finalement, elle rêvait, elle passait à côté d'une vérité, que peut-être c'était un excès de souffrance qui lui faisait parler de cette manière-là, qu'elle était dans l'illusion. Ils n'arrivaient pas à croire le message de cette femme qui venait de voir le Seigneur Jésus. Le doute, c'est quelque chose de terrible. Mais le doute peut se glisser dans notre cœur par la puissance de l'ennemi de notre âme. Et il faut savoir qu'il essaie par tous les moyens de nous vaincre toujours par ce moyen-là. Mais vous voyez, la parole de Dieu vivante a aussi le pouvoir de dissiper le doute de notre cœur. Mon frère, ma sœur, Tu peux douter de certaines choses, tu peux douter des hommes, et dans ce sens-là, je dirais, tu fais bien, parce que la Bible elle-même dit que personne n'est digne de confiance parmi les êtres humains. Si on s'appuie sur un bras de chair, on sera toujours déçu. Mais si on s'appuie sur Dieu, alors la Bible déclare que celui qui se confie en Dieu ne sera jamais dans la confusion. Ne placez pas votre confiance dans les hommes. Tous, quels qu'ils soient, un jour ou l'autre, pourront vous décevoir. Tous, un jour ou l'autre, pourront vous amener jusqu'au bord de ce gouffre-là, et alors des larmes couleront de vos yeux. Mais une chose est certaine, et voyez-vous, ce n'est pas un jeune homme qui vous parle, c'est déjà un homme qui a un certain âge. Mais à cet âge que j'ai, je puis vous dire, je rends ce témoignage, que mon Seigneur est réel, que mon Seigneur est bon, que mon Seigneur est juste, que jamais dans mon cœur il n'y a eu un doute sur sa grande fidélité. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'à l'intérieur de moi-même, je sens une force incroyable de m'appuyer sur le bras fort de l'Éternel. Et je vous invite à faire la même chose. Ne doutez pas, mais croyez en la fidélité de ce Dieu vivant et vrai. Ils étaient aussi vaincus. Ils avaient travaillé et ils avaient agi avec le Seigneur. Ils avaient vu les miracles. Ils avaient entendu des paroles formidables venant de la part du Seigneur. Et tout cela, d'un seul coup, eh bien, n'était plus une réalité pour eux. Ils avaient mis en oubli tout ce qu'ils avaient entendu, tout ce qu'ils avaient vécu, tous les miracles accomplis par le Seigneur. Ils étaient là, vaincus, comme ça pourrait être le partage de quelqu'un qui a dit « Mais je me suis efforcé de travailler ». Je me suis efforcé de faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Je me suis efforcé d'accomplir ce qui me semblait être ma vocation ou le plan de Dieu pour ma vie. Et puis maintenant, je me rends compte, eh bien, que je suis face à un échec. Écoute bien, mon frère. Écoute bien, ma sœur. Il y a des fois des échecs apparents qui ne sont que de grands moyens de bénédiction, parce que c'est bien souvent au travers de certains échecs qu'on arrive à découvrir le plan de Dieu et à découvrir qu'avec lui, rien n'est jamais fini. Rien n'est jamais fini. Le Seigneur est celui qui est le réparateur des brèches. Il est le restaurateur. Il est un Dieu puissant. Et nous n'avons pas à avoir un visage abattu de vaincu, mais au contraire, crions avec l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Voilà comment le Seigneur eh bien, a renouvelé la force de ces êtres-là. Et je dirais, le deuxième point, c'est qu'il y a eu une confiance renouvelée dans la puissance du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué? Il est dit au verset 6, et plutôt au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » Juste au verset 5, il leur avait dit à la fin du verset 5, « Vous serez baptisés du Saint-Esprit. » S'il vous plaît, j'attire votre attention là-dessus. Le verset 5, il dit « Vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Le verset 8, « Vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance qui va descendre sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je fais exprès de souligner ces deux expressions. Premièrement, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Deuxièmement, vous recevrez. Je me suis dit, y a-t-il une différence? Vous savez, être baptisé dans le Saint-Esprit, le terme par lui-même veut dire être plongé. On est plongé dans le Saint-Esprit. Mais recevoir, c'est une onction qui descend du ciel sur nous. Il y a le fait qui a été réalisé une fois, et je dois vous dire, mes frères et sœurs, nous ne devrions pas nous contenter de cette expérience qui a été faite une fois. Comme par exemple, nous pouvons l'entendre de la part de quelques-uns, quand on leur pose la question « Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit ?» Ils disent « Oui, il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a quelques mois. » Peut-être pour quelques-uns, ils vont dire « Il y a quelques jours. » Je dois vous dire, mes frères et sœurs, c'est bien d'avoir fait cette expérience-là. Mais cette expérience-là, eh bien, il faut que nous puissions en être renouvelés quotidiennement. Recevoir cette onction qui nous permet de continuer à servir le Seigneur avec efficacité. Vous et moi, nous sommes au service de Dieu. Ce n'est pas parce que moi j'occupe l'estrade que je suis serviteur de Dieu et vous dans les rangs que vous ne l'êtes pas. Chacun de différentes manières, nous sommes au service de Dieu. Mais comme nous sommes au service de Dieu et que nous comprenons que par nos propres forces, nous sommes incapables de quoi que ce soit, nous avons besoin tous les jours de recevoir cette onction qui nous permet d'accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir, ce que Dieu nous demande de réaliser. Je suis surpris que l'on puisse se contenter parfois d'une expérience que l'on a reléguée au passé. Je vais vous donner un témoignage un peu avec un certain humour, parce que c'est pourtant une expérience vécue. J'ai été en formation pendant un temps sur le plan pastoral avec un serviteur de Dieu qui avait un fils qui avait une peur bleue de l'eau. Et ce petit garçon, il était encore très jeune, ne pouvait pas s'approcher de l'eau sans trembler. C'était quelque chose qui était plus fort que lui. Puis un jour, il a réussi, vous savez, à tremper ses pieds dans un petit ruisseau. Et il est revenu tout joyeux vers le papa et lui a dit « Papa, papa, je sais nager !» Il avait juste trempé le bout de ses pieds dans l'eau et lui il disait « Je sais nager ». Vous savez, nous avons pu faire une certaine expérience dans le Saint-Esprit et merci Seigneur pour cette expérience que les uns et les autres nous avons pu faire et je souhaite que tous l'aient un jour réalisée. Mais nous avons besoin tous les jours d'être renouvelés. Vous savez, c'est un peu comme dans le fleuve d'Ézéchiel, où il est montré que le prophète qui était guidé par l'ange qui lui parlait a eu de l'eau d'abord jusqu'aux chevilles, puis ensuite jusqu'aux genoux, puis ensuite jusqu'aux reins, et puis ensuite il est dit c'est devenu un fleuve tellement profond et impétueux qu'il ne pouvait faire autrement que de s'abandonner. Et il nageait dans ce fleuve-là. Vous savez, mes frères et sœurs, je crois que vous et moi, nous avons juste plongé nos pieds. Il y a tellement, tellement de choses à découvrir. Quand nous voyons où nous en sommes aujourd'hui, nous sommes bien obligés de reconnaître, nous, pentecôtistes, si fiers de cette expression-là, peuple de Pentecôte, nous aurions bien besoin de redécouvrir ce qu'est la véritable puissance du Saint-Esprit. Ne croyez-vous pas? Et justement, c'est ce qui s'est passé là. Et Jésus, en se révélant à eux, leur a parlé de ce renouvellement-là. Il leur a parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Il leur a parlé aussi de cette action. Vous recevrez l'onction, la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins Aubagne a besoin d'être bouleversée. Et par quoi Aubagne, cette ville, pourra être bouleversée si ce n'est par des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit? C'est la raison pour laquelle je vous invite ce matin à prier le Seigneur tous les jours pour lui demander, Seigneur, remplis-nous de ton esprit et donne-nous d'avoir dans notre être intérieur cette force suprême qui dépasse ce que nous pouvons imaginer pour que nous soyons capables d'être des témoins efficaces. Priez pour moi, je prierai pour vous. Et nous avons besoin de demander à Dieu que cela se manifeste, se réalise. Ça, c'est le renouvellement dans la confiance et dans la puissance du Saint-Esprit. Troisième renouvellement, confiance renouvelée en son proche retour. Pourquoi vous arrêtez-vous, nous dit le texte, à regarder au ciel? C'est ce que les anges ont dit aux disciples qui venaient de voir le Seigneur être enlevé au ciel, puis dérobé à leurs yeux par une nuée, et ils restaient là, peut-être contemplatifs ou peut-être perplexes, peut-être aussi avec une certaine crainte dans le cœur, je ne sais pas. Mais en tous les cas, les anges ont fini par les sortir de leur torpeur. Ne restez pas comme ça, ne restez pas comme ça, en pensant à l'enlèvement du Seigneur. Mais allez maintenant, allez. Et il fallait qu'il soit quand même renouvelé dans l'espérance du retour. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dit, parce que de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel, il reviendra. Et vous savez, mes frères et sœurs, cette attente confiante du retour nous donne le sens de ce qui est prioritaire dans notre vie. Si la civilisation que nous connaissons touche à sa fin, et je crois que nous en sommes tous conscients, quelles sont les choses qui ont vraiment de l'importance pour nous? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est la richesse? Est-ce que c'est de posséder des biens? Sont-ce les loisirs qui, si souvent, sont recherchés par les uns et les autres? Est-ce que tout cela doit occuper notre esprit, tout en pensant, bien sûr, que Jésus doit revenir? Parce que tout chrétien doit penser à cela, doit savoir cela. Mais que nous pensions à cela, que nous proclamions cela, mais que nous vivions en contradiction avec cette espérance que nous pouvons avoir, c'est là un véritable problème. Et là, il y a eu un renouvellement dans la confiance de cette vérité formidable, Jésus revient. Il y a beaucoup de théories au sujet du retour du Seigneur. Nous aurons l'occasion d'en parler peut-être ensemble. Parce qu'il y en a qui disent telle chose en parlant de la grande tribulation. Est-ce avant le retour du Seigneur? Est-ce au milieu justement de cette période qui est appelée la grande tribulation? Est-ce à la fin? Vous voyez, il y a beaucoup de discours. Je vous ferai part de mes convictions profondes à ce sujet-là, mais ce n'est pas le but de ma méditation. Il y a beaucoup de théories sur le retour du Seigneur. Mais une chose est certaine, mes frères et sœurs, c'est que nous ne devons pas perdre l'espérance qui s'attache à ce retour formidable. Parce que, vous voyez, tous nos problèmes, comme ils seraient résolus vite fait, si le Seigneur revenait aujourd'hui. Vous vous imaginez? Mais n'est-ce pas un peu égoïste de penser comme cela? Tous nos soucis, tous nos problèmes résolus, Jésus revient. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas. Et peut-être certains d'entre nous, nous avons des membres de la famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors oui, de toute façon, il y a un plan de Dieu. Mais regardez, allez, partez, semblent dire les anges, allez, ne restez pas comme ça. Et finalement, nous, mes frères et sœurs, il faut que notre christianisme soit dynamique, soit vivant, qu'il soit une marche. Nous avons quelque chose à faire. Nous avons autour de nous des personnes qui ont besoin d'entendre que le Seigneur les aime, que le Seigneur a tout accompli pour qu'ils soient sauvés, des membres de la famille, des voisins, des amis, que sais-je encore. Nous avons une grande responsabilité. Mes frères et sœurs, si nous avons cette espérance, alors il y a certaines priorités qui vont apparaître pour nous clairement. Et c'est la raison pour laquelle nous lisons dans l'Écriture que le temps est proche, que le temps est court, et désormais dira l'apôtre que celui qui vend soit comme ne vendant pas, que celui qui achète soit comme n'achetant pas, que celui qui a une épouse soit comme n'en ayant pas. Et comme je l'ai eu déjà l'occasion de le dire, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vendre, que l'on ne doit pas acheter, que l'on ne doit pas avoir une épouse et avoir l'affection pour elle que la Bible nous demande d'avoir. Tout cela est une réalité, mais la priorité, c'est le Seigneur. Et la Bible dit qu'en tout, Christ soit le premier. Et quand cela est une réalité, alors tout le reste nous apparaît vraiment secondaire. Même si des fois, les yeux de notre cœur de chair ont tendance à s'attacher à certaines choses, il faut qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu nous fasse comprendre ce qui est essentiel, ce qui compte le plus, et que nous avancions dans cette direction-là. Puis, je dirais, confiance renouvelée aussi, c'est ce que nous voyons dans ce texte, renouvelée dans la relation que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Vous savez, ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a permis que dans ce chapitre que nous avons lu, où nous avons découvert tout ce que nous venons de voir, il est parlé aussi du nom des disciples du Seigneur. Quand ils ont entendu cet ordre-là, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors maintenant, allez, partez. Alors ils retournèrent à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Et puis il est dit, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, etc., etc. Pourquoi ? Pourquoi citer comme ça tous les noms ? Eh bien, parce que chacun d'eux avait une caractéristique particulière. Je vais vous amener sur un terrain un peu particulier ce matin, surtout en parlant de ces hommes-là. J'ai remarqué que côte à côte se trouve le nom de personnes qui avaient des caractères un peu différents. Par exemple, il est dit Pierre et Jean. Pierre, c'était justement le superactif, ça avait l'impulsif, celui qui réagissait très vite. Il avait un tempérament particulier. Jean, bien que il soit déclaré dans la parole de Dieu qu'un jour, Jésus l'a appelé Boanerges, parce que lui aussi devait avoir un sacré tempérament. Vous savez quand est-ce qu'il a dit cela, le Seigneur ? C'est parce qu'il devait traverser la Samarie, et comme les Samaritains n'avaient pas voulu accueillir le Seigneur, ces deux personnages-là, Jean et son frère, eh bien, ils ont dit, « Veux-tu que nous fassions tomber le feu du ciel sur les Samaritains ?» C'était facile de régler les problèmes de cette manière-là. Et Jésus a dit, mais vous ne savez pas comment vous parlez. Mais ce Jean-là, quand même après, il a été changé, transformé. On le voit à côté du Seigneur, toujours très proche, penché sur le sein même du Seigneur dans cette dernière soirée dans la chambre haute. On voit que cet homme avait été transformé. Et entre Pierre et Jean, il y avait parfois des étincelles. Vous allez dire, mais vous pouvez prouver cela par la parole de Dieu? Bien, on peut le ressentir. Après la résurrection, ou plutôt entre la résurrection et le jour de l'ascension, Jésus a parlé avec Pierre. Et il lui a dit certaines choses qui le concernaient personnellement. Et bien sûr, ce n'était pas bien agréable à entendre. Et Jésus lui a dit, tu sais, maintenant tu es jeune, tu fais ce que bon te semble, mais un jour viendra où quelqu'un d'autre te scindera et te mènera là où tu ne veux pas aller. Et Pierre a dû avaler la salive et la pilule en même temps, qui était un peu amère. Puis il s'est retourné et il a vu Jean arriver et il a parlé au Seigneur. Il a dit, « Et lui, Seigneur, qu'est-ce qui lui arrivera ?» Avez-vous remarqué comment le Seigneur lui répond ? Que t'importe ? C'est pas ton affaire, c'est pas ton problème, ça te regarde pas. C'est ça que ça voulait dire. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, vous vous rendez compte ? Le Seigneur a remis en place Pierre, ce qui veut dire quand même qu'il y avait une petite tension. Puis on découvre un peu plus loin Barthélemy, Matthieu. Vous savez que Barthélemy, c'est aussi l'autre nom de Nathanaël. Nathanaël, duquel il est dit qu'il n'y avait pas de fraude en lui. Juste à côté de Matthieu, le percepteur, le rusé, le percepteur qui trompait. Vous savez, il était lui-même, il faisait partie de ces gens qui prélevait l'impôt pour le compte de l'occupant romain, pas aimé, pas très honnête. Mais un jour, Jésus l'a appelé, et ça a été changé. Mais on les retrouve là, côte à côte. Vous savez, il a dû y avoir bien des différences. Il y a Simon le Zélote, c'est-à-dire un politicien vraiment très engagé dans ce domaine. Et juste à côté, Jude, un homme particulièrement effacé. Et ces hommes-là qui entendent le Seigneur et puis qui se retrouvent dans la chambre haute pour prier. Il y a beaucoup de différences entre les uns et les autres, même au milieu de nous. Nous sommes d'origine différente. Nous avons des tempéraments différents. Nous savons ce qui peut se produire. Nous savons comment le malin peut exploiter notre chair pour arriver quelquefois à nous dresser, c'est vrai, les uns contre les autres. Mais là où c'est merveilleux, c'est que nous pouvons nous retrouver ensemble, conscients de ce que nous sommes, en laissant notre orgueil de côté pour prier le Seigneur et lui demander de se manifester, de se révéler. Et parce qu'ils étaient ensemble dans la chambre haute, qu'ils priaient, malgré leurs différences, et qu'ils ont mené un combat particulier dans la prière, que le Saint-Esprit est descendu. Et je dirais la conséquence, ça a été une évangélisation formidable. Le Seigneur n'utilise pas des gens parfaits. Il utilise des gens aussi faibles et aussi minables que nous, pardon mes frères et sœurs. Mais je me mets dans le lot avec ceux que nous sommes. Mais si nous sommes suffisamment malléables pour nous laisser remplir de son esprit, alors que de choses ne va-t-il pas pouvoir faire ? Et je souhaite que nous prenions conscience de cela. Nous sommes différents, mais attention, la vraie communion fraternelle, elle ne va pas être empêchée par les différences qui nous caractérisent les uns et les autres au niveau de notre tempérament. Ce qui est un handicap à la véritable communion fraternelle, c'est le péché. Et il faut faire la différence entre le caractère et puis le péché. Et vous voyez, le mensonge, c'est un péché. L'avarice, c'est un péché. La cupidité, c'est un péché. L'orgueil, c'est un péché. Et il faut que nous prenions conscience de cela. À partir du moment où cela est avéré, comment est-ce possible que nous puissions avoir une véritable communion fraternelle? D'abord, demandons à Dieu de nous délivrer intérieurement de toute forme de péché. J'ai bien entendu quelques-uns dire « Seigneur, pardonne-moi. Sois précis, mon frère, sois précis, ma sœur. Fais-le dans le secret de ta chambre. Ce n'est pas la peine de le faire ici. Parce qu'ici, on peut avoir une attitude et après se comporter d'une manière différente. Mais dans le secret de ta chambre, parle-lui de ton péché. Parle-lui de ton péché. S'il y a convoitise d'une femme, dis-lui que tu es un adultère. S'il y a l'amour de l'argent, dis-lui que tu es un cupide. Si tu as de la haine dans ton cœur, dis-lui que tu es un meurtrier. Mais il est celui qui pardonne. J'entendais une sœur ce matin prier en ces termes et dire « Malgré ce que nous sommes, Seigneur, nous savons que tu es un Dieu qui pardonne. » Mais qu'est-ce qui nous sauve, mes frères et sœurs, si ce n'est la patience de Dieu, l'infinie patience de Dieu? Il peut nous pardonner, il peut nous purifier, et puis ensuite, il peut nous mettre ensemble pour que malgré nos tempéraments différents, nous crions à lui et faisant bloc, nous devenions une armée puissante entre ses mains. Le croyez-vous? C'est ça que le Seigneur désire faire par le renouvellement du Saint-Esprit. Je termine avec la dernière étape. Une confiance renouvelée dans la parole de Dieu. J'entends aujourd'hui que la Bible, eh bien, elle n'a plus la même efficacité. J'entends aujourd'hui que nous ne devons pas toujours utiliser ce qui est dans l'Écriture, qu'il y a aussi la psychologie, qu'il y a d'autres moyens d'avoir un impact dans le cœur de certaines personnes. Tout cela, nous pouvons l'entendre en entendant que finalement, il y a d'autres moyens d'évangéliser que la prédication de l'Évangile. Et pourtant, il est écrit, nous le savons, que seule la prédication de la croix est capable de changer le cœur humain. Tout cela, c'est important. Mais finalement, pourquoi vous dis-je cela en rapport avec le texte? Eh bien, c'est parce que, c'est pour ça que je l'ai lu jusqu'au bout. À un moment donné, Pierre se lève. Il n'a encore pas fait l'expérience de la Pentecôte. Et il dit, mais il faut que nous trouvions un remplaçant à Judas. Il faut que quelqu'un lui succède. Nous constituons le groupe des apôtres. Il faut donc qu'un certain personnage puisse être là, remplaçant Judas. Et il utilise... Écoutez bien, c'est étonnant, la parole de Dieu, il cite le psaume 69 et le psaume 109. Si ce chapitre 1 du livre des Actes des Apôtres nous parlait de ce fait, jamais je n'aurais pu prendre le psaume 69 et les versets qu'il a cités comme le psaume 109 pour en faire une application à la circonstance qu'ils étaient en train de traverser. Jamais. Mais comme c'est là, alors on dit, ben c'est formidable. La parole de Dieu, elle est pour toutes les générations. Jusqu'à la fin. Il y a effectivement des changements dans le temps au sein de notre génération. Et c'est bien vrai qu'il y a une évolution dans le monde. Mais l'évolution dans le monde ne doit pas nous faire croire que la Bible n'a pas le même impact. Je dis la Bible, je devrais dire la parole de Dieu n'a pas le même impact. Ce qu'elle était dans le passé, elle est pour aujourd'hui. Et face aux situations que nous pouvons traverser aujourd'hui, c'est dans la Bible que nous trouvons la réponse. C'est dans la Bible que nous trouvons la solution. C'est toujours dans l'Écriture. Et je proclame haut et fort ce matin que la parole de Dieu, elle demeure éternellement, n'en déplaise à tous ces nouveaux prédicateurs et ces superstars de l'Évangile qui ont transformé la prédication quelquefois même en une sorte de plaisanterie grossière. Moi, j'affirme avec toute la force de mon âme que seule la prédication de la croix et la parole de Dieu restent efficaces pour combler nos cœurs, satisfaire notre âme et nous donner la possibilité de voir la gloire de Dieu. J'en ai fini, mes frères et sœurs. Demandons à Dieu que dans toutes ces circonstances-là, nous connaissions le renouvellement par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous courbons notre tête devant toi et nous te demandons, viens à notre aide. Ne laisse pas l'ennemi triompher par le doute, par la déception, Seigneur, par tout ce que nous pouvons voir avec les yeux de la chair. Seigneur, nous voulons te dire que nous continuons à croire que ta parole est la vérité, que toi, tu ne changes pas. Alors notre confiance est placée en toi. Je te prie, bénis mes frères et sœurs ici présents, que ton onction divine repose sur eux comme sur moi-même. Donne-nous, Seigneur, au sein de notre génération, de pouvoir accomplir ta volonté, non pas avec notre force, mais avec la tienne. Seigneur, nous comptons sur toi et ensemble, nous te rendons grâce. À toi la gloire, Seigneur. Amen.